Bonjour, il est partout et pourtant, ou peut-être pour cette raison, il n'a jamais été autant diabolisé. Omniprésent dans les plats cuisinés, l'industrie agroalimentaire le glisse dans absolument tout ce qu'elle produit, du jambon au fond de sauce, des blinis à la charcuterie, sans parler des sodas et fast-food, le sucre, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, et la grande vedette, parfois cachée, de nos assiettes, et la quantité de glucose et autres saccharoses ingérées par individu n'a cessé de croître au cours du dernier siècle. Dans le vin, il est indispensable. Car sans lui, pas de fermentation, pas d'alcool, tout simplement, pas de vin. Il n'y a pas encore si longtemps, il était au contraire apprécié et recherché. On n'hésitait pas à boire un vin doux à l'apéritif ou un champagne surdosé avec le dessert. Aujourd'hui encore, nombre d'amateurs, y compris à ce micro, aiment à dire l'émotion qu'ils ont ressentie devant la richesse des arômes du célébrissime Château d'Yquem, qui reste l'un des vins les plus prestigieux de la planète. Et pourtant, la tendance de fond est plutôt au désamour. Le sucre dans le vin n'a plus vraiment la cote. Certains voudraient le voir disparaître. On veut des vins buvables, digestibles. On cherche le brut, l'extra brut, le sec et l'archi-sec. En un mot, cachez ce sucre que je ne saurais boire. Heureusement, Noël approche et à l'occasion des fêtes de fin d'année, les excès sont permis, tolérés, peut-être même recherchés. Ces vins doux, moelleux, liquoreux, ces vendanges tardives et autres sélections de grains nobles retrouvent alors grâce à nos yeux le temps de quelques repas de fête associés le plus souvent avec du gras ou du sucre, ces accords tellement 20e siècle. Des vins sublimes et pourtant mal aimés, il était grand temps que nous nous penchions sur leur sujet. Nous avons la joie de le faire avec un invité de prestige, une voix reconnaissable entre mille. Avant de le présenter mieux, je ne résiste pas à l'envie de citer en préambule cette formule que je l'entendis prononcer un jour dans mon poste de radio, alors que l'animateur de France Inter lui rappelait qu'il s'agit toujours de consommer avec modération, il répondit du tac au tac, « Parfaitement, nous laisserons modération à la cuisine et nous passerons au salon. » Peut-être bien avec un verre de sauterne, qui sait. Ce 61e épisode s'intitule « Un Noël tout en douceur » avec Jérôme Gagnaise. Bienvenue dans La Terre à Boire. Bonjour Jérôme Gagnaise.
Bonjour.
Merci d'être là pour cet épisode spécial sucre. Pendant le générique, vous nous contiez les aventures de Modération, la bien nommée. C'est marrant parce que Modération, moi j'imaginais que c'était un homme. En fait, non.
C'est un nom féminin, Modération. La modération.
Oui, c'est vrai.
Donc
c'est
je
vrai.
Me suis. Voilà, j'ai rien inventé. J'ai dit la modération, elle. Oui, il lui arrive plein d'aventures. Et elle n'est pas encore
surtout
au bout
des mésaventures.
Plutôt, oui, c'est préférable.
Merci d'être là. On est ravis de vous avoir pour cet épisode spécial sucre. On met les pieds dans le plat, si on peut dire. Nous allons donc explorer ensemble le monde merveilleux des vins sucrés. Pour cet épisode de fête. Nous sommes en nombre. J'ai envie de dire même en famille. Hein. Alors, la famille n'est pas entièrement réunie. Malheureusement, tout le monde n'est pas là. Les perturbations des transports, les mouvements sociaux qui nous privent de l'ami Laurent Delceau, par exemple, de Louise Bouet également, qui devait être là. Et Philippe Viette, évidemment, qui, lui, est dans ses vignes, comme il se doit, dans son Beaujolais, qui le passionne et l'obsède. Et d'ailleurs, il nous a envoyé une petite présentation qu'on écoutera tout à l'heure. Mais voilà, on est en famille. Pour clore un petit peu cette année, c'est l'épisode de Noël. On va se faire plaisir avec quelques vins. Jérôme, je te présente les gens qui sont autour de la table. D'abord, Patrice Defay, notre passionné passionnant.
Bonsoir.
Bonsoir, Patrice. Il y a également Florence Aragoni autour de la table.
Bonsoir.
Notre sommelière du 5e arrondissement.
Oui.
C'est là qu'elle travaille, pas forcément là qu'elle habite. Hein, mais
Non.
C'est mais plus bon. Difficile.
On y est tôt, on y est tard.
Il y a Bertrand. L'homme des liquides, chargé des liquides dans le célèbre podcast La Grande Bouffe, chaque 21 du mois.
Ouais, le podcast La Grosse Bouffe, le chaque 21
J'ai
du mois.
J'ai dit La Grande ?
Ouais, mais c'est normal.
Tout le monde se trompe, en fait. C'est mais c'est La Grosse Bouffe, évidemment.
La Grosse Bouffe, ouais.
Chaque 21 du mois, le dernier
Bonjour
épisode.
Bonjour tout le monde. Sur l'agriculture en Ile-de-France.
En Ile-de-France.
Hein. Et le 21 décembre, ça sera un épisode sur le cochon.
Bah écoute,
voilà.
Très bien. Le cochon est le bienvenu à cette table. Il est d'ailleurs... représenté dans certaines assiettes. Yes. Et puis, dans un repas de famille, il y a aussi parfois quelqu'un qui passe et qu'on a invité à prendre un verre, à prendre une assiette. Aujourd'hui, il y a Mademoiselle Jaja.
Bonjour.
Mademoiselle Jaja, c'est son surnom, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. On s'est rencontrés parce qu'il se trouve qu'ici, à deux pas de studio dans lequel nous enregistrons, il y a un caviste chez qui, parfois, je vais, les jours d'enregistrement, aller chercher quelques fromages, quelques charcuteries, quelque chose à manger, parfois quelque chose à boire. Et c'est toi qui me conseille. Et voilà. Et aujourd'hui, c'était le cas. Et puis, je t'ai dit, bah, tiens, viens.
Oui, caviste urgentiste,
voilà.
Pour les fêtes de fin d'année. Et puis, professeur de dégustation nomade.
Voilà, ça c'est ce que tu fais dans tes autres activités,
voilà.
de professionnel du vin, voilà, et d'amoureux du vin. Ça te parle de parler de vin sucré ?
Oh oui,
de moelleux liquoreux.
On va tenter l'expérience.
Jérôme, avant de parler de ces vins, je vais quand même vous présenter. J'allais dire, on ne vous présente plus, mais quand même, je vais quand même faire l'exercice.
Il faut le présenter avec modération.
C'est deux. Elle est là. Elle est toujours cachée quelque part.
Elle a été bloquée dans le métro.
On pourrait te croire journaliste, parce que tu interviens régulièrement sur France Inter, je l'ai dit, dans l'émission On va déguster, la célèbre émission de François-Régis Gaudry, chaque dimanche à 11h. Mais il n'en est rien, tu es sommelier de formation, consultant en vin depuis 2003, date à laquelle tu as créé cette société Vers le Vin, et tu organises des événements autour du vin, des dégustations pour des particuliers, des entreprises. Je crois que tu aides aussi des professionnels à concevoir leur carte des vins, par exemple. On trouve pas mal d'infos, ces infos et bien d'autres, sur le site verslevin.com, voilà, qui référence pas mal de choses. Il y a notamment un carnet de dégustation. Alors là, tu donnes tes impressions sur des millésimes de toutes les régions. Par exemple, quelques petits domaines comme la Romanée-Conti, que Florence connaît bien. Elle en boit au petit déjeuner. Florence travaille dans un restaurant qui est blindé de Romanée-Conti.
On en a quelques-unes.
Dans quel restaurant ?
La Truffière.
Ah oui.
Voilà, dans le 5e arrondissement, je l'ai dit. Il y a du dégustation de Pétrus, de Mouton Rothschild. On tombe sur ça hein, quand on va dans le carnet de dégustation.
Alors, je ne sais pas où tu les as vus. Enfin, pour être très franc, je ne suis pas très sérieux parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis à jour.
Je ne voulais pas le dire.
C'est très gentil de ta part, mais tu vois, je me dénonce.
C'est un grimoire, c'est ça ?
Non, c'est. Oui, ah bah ça pourrait y ressembler maintenant. faut être juste, ça pourrait y ressembler. Oui, il doit y avoir peut-être un millésime d'un domaine de la d'un vin, d'un des crus de la Romanée-Conti, du domaine de la Romanée-Conti, mais Pétrus, je ne l'ai pas beaucoup goûté. Il y a un Pétrus dans mon frère. Ouais, j'allais revoir mon propre site alors.
C'est intéressant ce truc.
Il y a Mouton Rothschild.
Il n'est pas très bien. Et Mouton, ça ne l'a pas très bien noté.
Il y a Thierry Allemand.
Oui.
Il y a quelque chose. Moi, je me suis dit que, évidemment, tu n'allais pas commenter.
Ah, mais oui, alors là, tu fais référence à une dégustation bien précise qui a eu lieu il y a quelques années.
Voilà.
Et c'était une Romanée Saint-Vivant 2003. C'était un Pétrus. Exactement. 1993. C'était un Thierry Allemand 1999. Et il manque à l'appel. Il y avait un Mouton Rothschild dont on ne se rappelle pas le millésime, mais de toute façon, ça ne valait pas la peine. et il y avait surtout un très joli Château Langelus.
C'est possible. Voilà. Il y a des belles étiquettes.
Oui,
après,
c'est bon pour la mémoire.
C'était une dégustation un peu exceptionnelle, ça.
C'est évidemment pas exhaustif de tous les vins que tu dégustes, parce que je dois le dire, on se croise quand même. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais il m'arrive quand même de croiser, et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, dans des salons des vins. Voilà, les vignerons ont l'habitude de te voir traîner dans les salons des vins. Et évidemment, on avait reçu Antoine Gerbel il y a déjà quelques temps, voilà, qui nous avait rejoint, c'était au Wine Therapy, on avait parlé de Chenin avec lui, c'était une assez chouette soirée, donc on est content, on a décidé c'était une superbe soirée, on avait fait deux émissions uniquement sur le Chenin, et voilà, donc les chroniqueurs vins, il y a pas beaucoup d'émissions sur le vin en fait à la radio hertzienne,
très peu, on est
d'ailleurs ça n'est pas une émission sur le vin, c'est une émission gastronomie,
oui.
avec une rubrique vin
qui a été dont la fréquence a été augmentée il y a deux ans par la volonté de François Régis d'avoir une chronique vin dans quasiment chaque émission, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé.
Ah d'accord. Ah oui, là, je pensais que c'était chaque semaine vraiment.
Non. Alors, fut une époque où c'était Dominique Hutin qui faisait toutes les chroniques vin, les six premières années de l'émission. Mais il n'y avait pas une chronique vin à chaque émission.
D'accord.
Et puis à partir de janvier 2018, oui, François Régis voulait qu'il y ait une chronique vin à chaque émission. Je voudrais juste faire une petite rectification. Je n'ai pas de formation de sommelier.
Ah, pardon.
Donc, je ne voudrais pas usurper un titre que je n'ai pas.
La passion du vin est venue comme ça et
elle est très ancienne et je me suis formé tout seul sur le tas.
Même pas des WSET, les trucs comme ça.
Non, je suis assez rétif à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un diplôme. Et donc, ça ne me serait pas venu à l'idée. En revanche, j'ai beaucoup goûté avec une très grande assiduité. Et puis, je suis tombé sur 2-3 bouquins que je n'ai pas tous compris d'ailleurs, mais qui m'ont permis quand même de mettre un peu le pied à l'étrier.
Est-ce que, après on va parler des vins, mais est-ce que plus de 15 ans à travailler dans le vin, parler des vins, organiser des événements dans le vin, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que d'abord la passion est intacte ? Et est-ce que tu expliques ça ? Qu'est-ce qui fait que justement on ne se lasse pas de cet univers ?
Il y a plus. D'abord, l'univers du vin, je ne l'apprendrai personne autour de ça. Personne autour de cette table, c'est absolument infini. Et j'avais l'habitude. Je m'étais fait une remarque une fois en revenant du Salon des Vins de Loire à Angers, que je fréquente maintenant depuis une grosse quinzaine d'années tous les ans. Je m'étais dit que c'était extraordinaire parce que je savais très bien en partant au Salon des Vins de Loire que je reviendrais à Paris en ayant appris quelque chose. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais apprendre, mais j'étais bien sûr d'une chose, c'est que je reviendrai en ayant appris quelque chose. Et donc ça, pour moi, ça a été une motivation extraordinaire. Et à la fois, on revient en ayant appris quelque chose, et en fait, on s'aperçoit que l'horizon s'éloigne encore plus. Plus on sait, plus on apprend de choses sur le vin, et plus l'horizon s'éloigne. Donc ça veut dire qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Donc ça, c'est un très enthousiasmant. Et puis après, j'aime bien parler. Donc j'ai trouvé un métier où je pouvais parler du vin. Donc je me suis dit que c'était là qu'il fallait que je fasse, parce que, enfin, que je fasse mon métier de ça, parce que c'était vraiment une passion folle, le vin, et que j'aimais bien en parler. Donc voilà, j'ai trouvé un moyen de faire mon métier de cette passion. Et je m'en porte très bien, je dois dire.
Effectivement, parler du vin et cet univers infini, oui, c'est un peu ce qu'on... C'est presque au début, à l'origine de ce que nous, on a lancé en faisant une émission comme ça, c'est qu'on savait qu'on rentrait dans un truc... que des thèmes, ce sera jamais difficile d'en trouver. On a fait une émission en fin d'année dernière en se disant quels sont les thèmes qu'on a envie d'aborder, et puis on aurait pu rester 3 heures sur cette émission-là. On a une liste comme ça, les gens à inviter, les thèmes à aborder, les vins à découvrir.
Inépuisable.
Alors, avant de parler des vins, j'avais envie de vous faire écouter une toute petite intro, parce que notre thème, ça va être donc les vins sucrés. Et là, j'ai quelque chose.
Ah, monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez ?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux ?
Plutôt sec. Je
préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux ?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux ?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec ?
Non, je préférerais un demi-doux. Non, écoutez, donnez-moi, parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper de moi. Vous allez
là. Attendez. Ça continue comme ça.
Comment elle est, votre eau des viandes ?
J'ai l'impression que vous connaissez cette référence.
Elle est très fraîche.
Et votre eau Perrier, comment
est-elle ? Voilà, c'est le grand restaurant. Un film de 1966, la voix, les deux voix, évidemment, c'est Louis de Funès et Paul Prébois, en serveur. Et pour la petite anecdote, Louis de Funès est Monsieur Septime, le patron du restaurant, qui se grime, qui se déguise pour revenir en client, pour tester un petit peu la validité et la qualité du service dans son propre restaurant. Voilà, c'est un petit morceau... C'est sec, c'est trop sec, c'est trop doux. Il y a aussi le demi-sec. Moi, j'aurais préféré un demi-doux, c'est magnifique. Voilà. Alors, attaquons le vif du sujet. Si j'ai, peut-être que vif, ce n'est pas le bon terme, d'ailleurs, mais j'ai envie de dire...
Il faut que ce soit le bon terme. Si ce n'est pas vif, c'est un problème.
Ah, déjà, un terme est posé. Patrice.
Alors, le sucre, parlons du sucre.
Parlons du sucre.
Le sucre, à la base, c'est déjà un élément constitutif du raisin. Et c'est par ailleurs une des quatre saveurs, un des quatre points cardinaux du goût, avec l'amertume, le salé et l'acide. Et donc, c'est un peu un des quatre points qui détermine un peu la carte et le territoire de l'expression du goût en général et donc du vin en particulier. Pour les vins blancs, donc les vins blancs, on considère sec, on considère que c'est moins 4 grammes de sucre par litre. 4 grammes de sucre, ça correspond à peu près à un demi-morceau de sucre, hein, visuellement. Si on doit, un morceau de sucre, c'est à peu près 8 grammes. Pour les vins blancs, donc, l'équilibre ou le paysage se définit plutôt entre l'acide et effectivement l'alcool, acidité, alcool. Pour les vins blancs moelleux, ben, on a alcool, acidité et sucre. Donc on a un paysage, on va dire, gustatif qui est un petit peu plus vaste. Et le sucre, ce qui est bien, c'est que ça a un super pouvoir parce qu'il il complète et il sublime parfois les trois autres, hein, l'acide, l'amer. Pour le salé, ben, qui n'a pas kiffé, hein, du caramel beurre salé, hein, quand c'est bien dosé, quand il y a la bonne dose de sel, ben, le sucre et le sel se subliment. Alors que les trois autres saveurs, l'acidité, l'amertume et effectivement le salé, elles s'opposent. Donc le sucre a aussi des super pouvoirs. Il sublime les trois autres saveurs s'ils sont bien équilibrés.
On dit souvent que c'est un exhausteur de goût.
Exactement.
Et l'industrie agroalimentaire s'en sert abondamment dans tout ce qu'on peut manger.
Exactement. Bon, en général, ici, il brille un peu par son absence, parce que par définition, le sucre est mangé lors du processus de fermentation.
Dans le vin.
Exactement, dans le vin. Et donc, il renforce. Quand on parle de sucre en général, on parle de sucre résiduel, et il est souvent considéré comme un défaut du vin. Dans les exceptions modernes, c'est souvent un défaut du vin d'avoir des sucres résiduels. Voilà, donc...
Ça, c'est un des points dont on peut peut-être parler tout de suite, c'est qu'est-ce qui fait que c'est devenu un défaut ? C'était une qualité, quand même. C'est-à-dire, les vins d'Alsace, très sucrés, étaient réputés pour ça. On prenait l'apéritif. Moi, je l'ai déjà raconté, mais je vais bien... Chez moi, le Rivesaltes en vin doux à l'apéritif, c'était un grand classique. On commençait par un vin sucré, ça ne se fait plus tellement ça aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il... Non, mais après, on est passé d'un excès à l'autre. Tu parlais de l'Alsace, c'est très frappant en Alsace. Il y a une exigence des amateurs de vin d'avoir des Alsace secs. Enfin, proférer une généralité pareille, c'est d'une stupidité sans nom, parce qu'il y a énormément de terroirs sur lesquels on ne peut pas faire de vin sec. Allez voir des vignerons qui sont entre le Schlossberg et le Chenambourg. Ils vous diront tous que c'est très compliqué de faire du vin sec sur le Chenambourg et que c'est nettement moins ardu de le faire sur les granites du Schlossberg. Donc, en Alsace, il y a une mosaïque de terroirs et ça me semble être très bizarre de vouloir faire des vins secs partout. On peut faire des vins secs en Alsace, mais il y a des terroirs qui, à mon avis, sont à leur meilleur quand ils ont touché leur propre équilibre. Or, ce propre équilibre, encore une fois, je cite le Chenambourg, on pourrait citer même le Rangen, par exemple, dans le sud de l'Alsace, le Rangen de Tann, ça implique, j'allais dire presque nécessairement, une part de résiduel, tant les maturités que les raisins acquièrent sur ces sols-là sont très abouties. Et donc, ça fait partie intégrante de l'identité du vin et de son équilibre naturel, j'allais dire. Ce serait, à mon sens, aller... à l'encontre de l'équilibre naturel du vin que de vouloir faire un sec sur le Chenambourg.
Un vin contre le terroir, finalement. Oui, Florence.
Et puis, en Alsace, il y a beaucoup de vignerons, pour répondre à cette exigence de blanc sec, vendangent de plus en plus tôt. On en a parlé avec Flight, je pense qu'on aurait pu en parler avec d'autres vignerons. Avant, c'était de bon ton d'attendre le plus longtemps possible, de faire des vendanges tardives, de faire des sélections de grains nobles. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est les vignerons qui demandent des dérogations pour pouvoir faire les vendanges de plus en plus tôt, pour pouvoir rester justement dans ce cadre de réalisation de vins secs.
Quitte à vendanger en sous-maturité, c'est ce que tu
peut-être
veux
pas, non, peut-être pas sous-maturité, mais c'est vrai qu'il y a une évolution aussi climatique, donc il y a une évolution du goût et une évolution climatique. Donc les deux convergent, selon moi, et donnent ce résultat de vignerons qui vendangent de plus en plus tôt et qui travaillent différemment les vins.
Justement, puisqu'on était en Alsace, Patrice, ouais. Ce qu'on a dans les verres, c'est un Alsacien. Et après, je te donne la parole.
Bertrand. Oui, alors juste pour les grandes catégories, donc on considère vin sec avec moins de 4 grammes de sucre.
On commence par ouvrir le plus sec de nos vins doux. C'est ça que tu veux. Hein.
Après, il y a le demi-sec, pas le demi-doux, mais on a le demi-sec qui a moins de 12 grammes par litre. Il y a le moelleux qui a moins de 45 grammes. Et puis, bien sûr, on a les liquoreux qui sont au-delà de 45 grammes de sucre par litre. Bon, encore une fois, ça fait à peu près 5-6 morceaux de sucre. Quoi.
C'est pas mal cette unité du morceau de sucre, là. C'est tout de suite assez visuel.
Oui, je trouve ça. Ouais, c'est visuel. Et donc là, on est sur effectivement une vendange tardive. Donc il y a différentes manières pour obtenir des vins secs, liquoreux, moelleux,
chapitre
etc.
Chapitre 1, voilà. Les vendanges tardives.
Oui, les vendanges tardives. Donc globalement, on attend qu'il y ait une maturité forte des raisins. En général, on vendange en octobre, novembre, voire parfois décembre. Et c'est le cas de cette Alsace. Donc c'est un vendange tardif en Riesling. D'Albert Boxler, donc qui est un. Alors Boxler, c'est un domaine qui fait 14 hectares, qui est à Niedermorschwihr, plusieurs générations. Donc là, c'est Jean qui est le propriétaire. Donc sur les 14 hectares, il y en a à peu près la moitié en grand cru, dont 5 hectares à peu près en grand cru de Riesling, principalement en Sommerberg, et un hectare en Brandt. Donc les vendanges tardives, ce n'est pas tout le temps, il faut qu'il y ait une belle maturité. Et une belle année de raisin, donc là on est sur un 2011, il n'y en a pas toutes les années, vendanges tardives. Et donc là, bah voilà, on a ça dans les verres. Alors le première chose intéressante, c'est que bah, le sucre, par définition, quand on a trop de sucre, c'est des vins plats, lourds, etc. Donc il faut que ce soit compensé par quelque chose, soit par de l'acidité, soit par de la minéralité, soit par de l'amertume. L'avantage du Riesling, c'est que c'est un des cépages les plus acides naturellement. Donc un vendange tardif de Riesling, c'est assez rare, je ne sais pas si on a tant que ça, enfin, après je ne suis pas expert, c'est plutôt des pinots, des gewürz en général, vendange tardif, on va chercher la sucrosité. Là, par définition, on est sur un Riesling, donc quelque chose qui va, par la naturalité, on va dire, le côté variétal du cépage, et aussi par rapport au terroir, assez minéral du Sommerberg, parce qu'on est sur des pentes à 45 degrés à peu près, ce qui est assez héroïque en termes de vendange. Chez Boxler, on est sur quelque chose qui est. Alors, je ne sais pas si on est en demi-sec ou en moelleux là, dans la catégorie, je ne sais pas le taux de sucre exact, mais on n'est pas en liquoreux, ça c'est clair. On est sur quelque chose d'assez équilibré, je trouve, en bouche.
Ouais, c'est un vin admirable. Enfin, moi, j'aime énormément les Riesling en VT et en SGN, en sélection de Grenoble. Il s'en fait relativement peu, malheureusement. Il ne s'en fait pas suffisamment à mon goût. Je trouve que c'est un cépage qui s'y prête très très bien. Et en particulier chez Jean, qui est. Un vigneron qui fait des vins que j'aime beaucoup, qui n'a pas cette obsession du vin sec, justement, qui n'a pas cette obsession et qui fait que, c'est là où je ne partageais pas tout à fait votre point de vue, c'est que je pense, enfin, disons que des excès mènent à ce que finalement les vignerons finissent par récolter les raisins sous maturité pour avoir de l'acidité. Parce qu'en fait, c'est devenu une quête tellement obsessionnelle qu'on finit par récolter des raisins en sous-maturité.
On peut les comprendre, du reste.
En fait, ça dépend des vignerons, tout simplement.
Si les vins ne se vendent pas, qu'ils ont un problème de débouché, finalement, parce qu'on va leur dire, bah, vous Alsace, en dehors de l'Alsace...
Non, mais là, je parlais d'une façon... Je pense que c'est moins vrai pour l'Alsace, d'ailleurs, que pour d'autres régions. Je pensais en particulier au Languedoc et au Roussillon, où on arrive à avoir des vins... qui sont réellement recueillis en sous-maturité. Ah oui. Enfin, ça n'a plus aucun sens de vouloir faire du Riesling, enfin un vin avec un équilibre de Riesling dans le Roussillon. Enfin, faut changer de région si on a envie de faire ça. donc voilà. Mais en Alsace, il y a un peu plus de mesures. Et c'est vrai qu'il y a des vignerons qui font un peu plus attention parce qu'ils ont du mal à vendre des vins avec des sucres résiduels, ça c'est certain. Et voilà, des grands sucres. En Alsace, ça donne des très grands vins moelleux, des très grands vins liquoreux, parce qu'il y a des jours des grandes, grandes acidités, des acidités de fou en Alsace. Et bah là, typiquement, hein, dans ce 2011, il y a une fraîcheur, une acidité formidable. C'est très citronné et à la fois, il y a la largeur, la richesse d'une belle liqueur très équilibrée. Moi, je trouve ça très beau, ça. Très, très beau vin.
Bertrand ?
Après, bon, c'est pas une émission sur l'Alsace, hein, on est d'accord, mais ce qui est intéressant dans cette région, c'est que c'est une région qui est pas hyper à la mode et où le consommateur est toujours un peu frileux parce qu'il sait jamais ce qu'il va avoir dans son verre.
Parce que
est-ce que ça va être sucré, est-ce que ça va être demi-sec, demi-doux, est-ce que ça va être sec, on sait jamais trop en Alsace. Et c'est aussi une conséquence du cahier des charges pour s'appeler vendange tardive. Pour s'appeler vendange tardive en Alsace, il faut le dire à l'avance. Et ensuite, une fois qu'on a terminé le vin, il faut qu'il repose, qu'il vieillisse au moins 18 mois, je crois. Et ensuite seulement, il y a une dégustation d'agrément
Il y a une richesse minimum requise. Hein.
Oui,
pas la même pour les Riesling. Elle est identique pour Pinot Gris et Gewürz. Elle est un peu plus basse pour le Riesling.
Et pour le Muscat aussi, mais après, il y a quand même une dégustation d'agrément où il y a un jury qui décide s'il a le droit de s'appeler vendange tardive ou pas. Dans beaucoup de régions, la dégustation d'agrément, c'est une formalité, quasiment tout le monde passe. En Alsace, pour le vendange tardif, il y en a un tiers qui est recalé quand même. Donc ça fait qu'il y a beaucoup du coup de vins sur le marché qui s'appellent cuvée spéciale ou cuvée machin, cuvée trucmuche, qui sont en fait des vendanges tardives qui se sont fait recaler et du coup avec des vins avec des fortes sucrosités mais qui sont pas inscrites sur l'étiquette et ce qui contribue en fait à la confusion pour le consommateur final et qui du coup par voie de conséquence au bout de la chaîne fait que c'est compliqué de vendre de l'Alsace aujourd'hui.
Faut savoir aussi qu'en Alsace, pendant très très longtemps, ça a été en Alsace, je bois du Riesling ou je bois du Gewürztraminer. Il y a une nouvelle génération de vignerons qui ont décidé de mélanger les cépages, donc ça aide pas à s'y retrouver. Après, on y revient. Finalement, on fait du monocépage. Finalement, comme tu disais, on fait des cuvées spéciales parce que on n'arrive pas à classer en vendange tardive, c'est pas évident de s'y retrouver au jour d'aujourd'hui. On a intérêt à connaître le vigneron ou on a intérêt à tomber sur un bon sommelier ou un bon caviste qui sait exactement le goût du vin dans la bouteille.
Et on s'est une belle à s'y retrouver parce que ils ont pas été capables encore jusqu'à maintenant en Alsace de définir une échelle de sucrosité qu'ils adoptent tous. Alors ils se cachent derrière le paravent de l'Europe en disant oui, mais on en avait une, mais c'est pas ça n'est pas compatible avec les règlements européens. J'ai eu de nombreuses discussions avec des vignerons alsaciens sur ce sujet-là. Je leur ai dit arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt, on n'en a rien à foutre de l'Europe. Faites donc votre échelle des crus, enfin de sucrosité, mettez-la sur vos étiquettes, faites-en une seule, parce qu'il y en a un et c'est sur 5, un autre c'est sur 9, un autre c'est sur 12, donc c'est n'importe quoi. Faites-le. Quand l'Europe viendra vous emmerder là-dessus, il sera toujours temps d'aviser. Mais au moins, faites-la.
C'est marrant parce que l'Alsace est par ailleurs une des régions qui est la plus lisible en termes de cépage, puisqu'ils font pratiquement que du monocépage, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Il n'y a pas d'assemblage, c'est moins obscur qu'un Châteauneuf-du-Pape, mais sur cette question du sucre, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout où on met les pieds. Quoi.
En tout cas, il y a quand même des choses hyper intéressantes en Alsace. Je trouve que les Riesling vendanges tardives, quand c'est bien fait comme ça, je trouve que c'est assez génial.
Ah ouais,
ça marche super bien sur. C'est pour ça que j'avais ramené des nems avec une sauce épicée, ça marche assez bien sur la cuisine asiatique et les choses épicées. Et donc, on oublie trop souvent que le sucre, on peut le mettre dans un repas. On le met souvent aux extrémités, mais pas au milieu. Avant, après, ou sur le dessert, etc. Mais je pense que voilà, quand on est sur des teneurs qui doivent être là, demi-secs ou moelleux, je ne sais pas exactement, ça marche très très bien sur la cuisine asiatique parce que ça répond super bien aux épices.
Voilà. Les accords classiques, je disais, c'est le gras, donc le foie gras avec le sauterne. On a un sauterne sur la liste et on a un petit peu de foie gras, donc on testera un petit peu cet accord-là. Ou alors le sucre sur le sucre, donc en dessert, un vin sucré.
En dessert, ça, c'est sympathique parce que c'est sucré, mais ça ne l'est pas trop, justement. Donc ça évite de rajouter trop de sucre.
Celui-là,
et
tu veux dire.
Celui-ci. Ça me fait penser, parce qu'on en parlait de s'y retrouver, c'est comme quand on goûte un Altenberg de Bergheim de chez Dace, donc c'est pas évident parce que là c'est un mélange de cépages, donc c'est pas aussi facile de s'y reconnaître. Il y a de la sucrosité, mais peut-être pas autant que dans un vendange tardif ou dans un sélection de grains nobles, donc c'est pas on a intérêt d'avoir goûté avant, mais comme celui-ci il y a de la sucrosité, mais il y a une belle acidité, il y a quelque chose de bien tondu, de bien long, et du coup sur un dessert de saison d'hiver avec des fruits exotiques, ça matche bien.
Ouais, c'est un très bon exemple. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des vins magnifiques.
Il y a deux choses qui tendent le vin, je trouve. Il y a effectivement alors il y a classiquement le côté un peu fruit exotique qu'on peut retrouver parfois, mais beaucoup d'agrumes en goût, enfin, kumquat, choses comme ça, et beaucoup de minéralité aussi. C'est le propre du Sommerberg pour Boxler, c'est que voilà, l'attention, l'équilibre du sucre se fait sur le côté, je pense, effectivement acide, fraîcheur et minéralité quand même.
Oui, c'est l'occasion de rappeler que c'est difficile à appréhender effectivement cette région, l'Alsace, mais on a heureusement des gens qui travaillent dans cette direction et c'est tout l'intérêt d'aller voir un caviste. En tout cas pour découvrir la région de l'Alsace, qui est une merveille hexagonale à côté de laquelle il ne faut pas passer.
On a eu du mal à la récupérer en plus.
Oui, voilà, exactement. Donc ce serait dommage de de pas récolter les fruits. Voilà.
Régulièrement, il y a des rumeurs, il y a des gens qui lancent des rumeurs.
C'est pour ça qu'ils sont peut-être un peu rigides sur le côté sucre du thé, sur le côté vendange tardive.
Le caviste, il est là à la fois pour parler des accords. Il est normalement suffisamment à l'écoute sur ce que vous allez manger. Moi, c'est une des premières questions que je pose. Et en général, ça fait sourire, mais c'est une très, très bonne porte d'entrée pour parler des vins. Et puis, c'est tout l'intérêt, c'est d'aller découvrir des régions qui sont plus difficiles. Et effectivement, comme disait Jérôme, quand on est face à un rayon linéaire en supermarché, c'est indéchiffrable du point de vue de l'étiquette.
C'est la raison pour laquelle il faut, la dernière chose à faire, c'est d'aller acheter son vin dans un supermarché. Alors ça, après, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Hein. Si on a une merde sur sa table, il ne fallait pas aller au supermarché.
Alors avec une voix un peu plus douce, c'est ce que je voulais entendre Jérôme dire. Voilà, ça me fait très plaisir.
Non, ça, je suis un infatigable et inlassable défenseur des cavistes. C'est un métier merveilleux. Et d'ailleurs, il donne des bonnes idées d'accord. Avec ce vin-là, ça me rappelle un accord qu'on avait fait il y a très longtemps. Dans un restaurant alsacien, on avait un coq au Riesling, bien crémé. C'était au début des années 2000, en 2003 ou 2004. Et on avait bu là-dessus un Riesling vendange tardive, Grand Cru Münchberg 1990 de chez André Ostertag. Et c'était absolument extraordinaire. Le sucre se fond, le vin mange un peu son sucre. Donc on a une sucrosité perçue qui est relativement faible, très grande acidité. Sur le plat, c'était absolument fabuleux.
Avec une volaille, mais c'est vrai qu'on...
Le sucre va bien sur des plats salés, hein, le sucre. Sur une volaille, c'est formidable. Hein, un sauterne, c'est merveilleux.
Mais parce qu'en fait, en France, on n'a pas trop su, comme vous disiez, mettre les échelles de sucre, alors que c'est beaucoup plus clair. On parle de l'Alsace, mais juste à côté, il y a l'Allemagne. Sur les vins allemands, sur les vins autrichiens, on sait à quoi s'attendre, oui, en matière de sucrosité. Eux, ils ont su, je pense, passer le cap. Et alors, est-ce que c'est parce que les goûts sont différents, la cuisine est différente, ils ont moins de soucis à vendre leur vin moelleux et liquoreux chez eux, alors que nous, chez nous, nous, on est obligé d'essayer de les vendre à l'exportation parce que en France, ça fait un bide total. Alors que je pense aux grands vins moelleux autrichiens, on en trouve très difficilement à l'extérieur, hein, parce que ils sont très réputés là-bas et que ça se vend comme des petits pains là-bas et que du coup, c'est difficile d'en trouver pour nous à l'extérieur. Donc il y a un truc qu'on n'a pas su faire. Hein, dans la promotion, dans l'explication de nos vins, je pense.
Sur ce point-là, donc les œnophiles français, on a compris, se tournent un petit peu le dos à ces vins-là. Ils se vendent mal, tout le monde le dit. Voilà, ils sont difficiles, en dehors des périodes de fêtes où on sort un peu les vins sucrés, et encore on les limite au début ou à la fin du repas. Qu'en est-il du goût Alors, tu dis que nos voisins allemands, autrichiens sont un peu moins rétifs. Ils ont gardé ce goût pour ces vins un peu moelleux. Qu'en est-il de la clientèle asiatique, par exemple, qui a une cuisine très différente? Après, ils n'ont pas forcément la culture de l'accord, mais ben, ils aiment déguster les vins pour eux-mêmes. Il me semble que les Asiatiques, ou même les Russes, sont plus amateurs de vins sucrés, Bertrand.
Oui, effectivement. C'est-à-dire que, en fait, le goût du sucre, il est bien sûr culturel. Et nous, ici, en France... on est en ce moment, voilà, le sucre n'a pas la cote.
Ça, c'est fou quand
et
même.
Que ce soit dans les vins, c'est mais aussi dans la gastronomie. C'est-à-dire que quand tu vas au resto aujourd'hui, souvent, enfin, c'est pas par hasard que les desserts de grands restaurants sont de moins en moins sucrés et qu'on se met à avoir des topinambours dans les cartes de dessert ou des desserts au fenouil, au navet, etc.
Avec cette incongruité, malgré tout, c'est que si tu observes bien, et je fais des restaurants assez souvent parce qu'il m'arrive que François-Régis Gaudry m'emmène dans ses bagages pour faire des restaurants. Et il y a un truc que j'ai remarqué qui me sidère, parce que moi, je n'aime pas tellement les mélanges sucrés-salés. Ce n'est pas trop mon truc. Bah, regarde bien les cartes de restaurants dans tous les néo-bistrots que tu peux trouver à Paris et trouve-moi plus d'un plat sans rien, sans sucre, absolument sans sucre, hein, sur une carte. T'as systématiquement un fruit à la con qui vient foutre le bordel. C'est quand même assez délirant. C'est-à-dire qu'on est là à brailler comme des veaux contre le sucre.
C'est la fusion food.
Il faut absolument avoir des vins qui sont ultra secs. Et t'as pas un plat. Enfin, quand je dis pas un, j'exagère un tout petit peu. Pas beaucoup. T'as très peu de plats qui sont sans sucre.
Ben, c'est vrai que...
Je m'imaginais, c'est ce que je disais un jour à François, je m'imaginais diabétique. Putain, c'est un enfer. Hein. T'es vraiment diabétique, tu peux pas aller au resto. T'as un fruit à la con, t'as un truc de miel, t'as un machin. C'est délirant.
C'est délirant.
Bah, c'est vrai qu'il y a cette tendance de vouloir tout mettre dans un plat à chaque fois, du sucré, du salé, de la mer, du croustillant, du mou, du machin, du truc, pour créer voilà, un équilibre. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le sucre, même dans les assiettes, n'a vraiment pas la cote. Donc dans les verres aussi. Mais c'est finalement assez... alors, je ne sais pas si c'est que français, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans d'autres pays, ce n'est pas forcément valable. Je prenais, par exemple, dans le champagne Veuve Clicquot fait plusieurs cuvées. Et le demi-sec, ils ont arrêté de le vendre en France. Ça ne se vend plus. Mais par contre, le premier marché, c'est la Russie, parce que là-bas, ça cartonne. Le Nigeria, qui est aussi un très gros pays, un très gros marché pour le champagne, pour les champenois, bah là-bas, c'est plutôt le Moët Hays qui cartonne. Donc, c'est une cuvée très, très sucrée de Moët et Chandon qui se boit avec des glaçons. Alors, on en pense qu'on veut, c'est juste pour parler du sucre. Hein. Je ne vais pas lancer un débat.
J'allais juste dire que s'ils pouvaient ne pas vendre du tout de Veuve Clicquot en France, on ne pleurerait pas.
Non, mais c'est juste pour donner une idée de voilà de que le sucre, en fait, c'est assez culturel et ça dit aussi de ce qu'on les goûts de chaque culture. Quoi.
Est-ce que on parle de la clientèle asiatique? Moi, j'ai juste parlé de la clientèle chinoise. On a deux, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. On a les très connaisseurs qui vont être très amateurs de grands vins, de rouges, plutôt de Bourgogne en général. Et puis, on a ceux qui veulent du vin, mais en fait, c'est pas vraiment du vin qu'ils veulent, c'est du jus de raisin. Ils veulent un truc léger, un peu sucré, comme on dit, très facile à boire.
Plutôt rouge ou plutôt blanc, ceux-là?
Alors, ils demandent un peu rouge, mais en général, ils préfèrent un peu blanc. Mais c'est une clientèle, c'est une clientèle qui est pas facile à qui c'est. Enfin, c'est pas facile de leur faire plaisir. Au final, on termine soit sur un jus de merlot de chez un amia parce que prend un jus de fruits, puisque me demande pas du vin, parce que c'est pas ce que tu veux et c'est pas ce que tu aimes. Ou alors, moi, j'ai un truc qui marche bien pour cette clientèle là au restaurant, c'est Domaine d'Anségur Sauvignon d'Or. Bon, c'est un petit peu spécial, c'est un Sauvignon qui est pas en surmaturité, c'est une maturité normale des raisins, mais c'est la fermentation qui est pas tout à fait complète, donc on garde un petit peu de sucre résiduel, donc c'est assez léger sur le sucre, hein. C'est pas trop liquoreux, c'est assez souple, et du coup c'est aussi c'est assez léger sur l'alcool et ça leur convient bien, parce que moi je suis pas scientifique, hein, j'ai pas fait d'études, mais cette clientèle asiatique, je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas l'habitude ou autre, mais ça leur fait un effet l'alcool, faut voir qu'en 10 minutes, ils deviennent tout rouges. Ils sont très très gays, hein. Donc
non, parce que c'est l'alcool plus que le sucre quand même.
Ouais, je sais pas, c'est l'alcool, le sucre, tout ça, c'est le vin, c'est l'ensemble. Ils ont pas l'habitude.
Ils ont une propriété génétique en Asie qui fait que
la tolérance à l'alcool est moins.
Oui, elle est globalement moindre en Asie.
Alcool fort, ils tiennent.
Juste pour rappeler aussi d'ailleurs que la sensation du sucre, c'est pas que le sucre quand on boit du vin, il y a aussi l'alcool. Donc l'alcool a sa propre sucrosité. Et si on met 4 grammes par litre de saccharose dans de l'eau et qu'on rajoute 4% d'alcool, la sensation va être décuplée quand il y a l'alcool. Donc quand on parle de sucre, il y a la présence du sucre, mais aussi la sensation du sucre qui est renforcée par l'alcool. Donc il y a une sucrosité de l'alcool aussi, il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas que le sucre dans le.
En tout cas, ce Grand Cru Sommerberg, Vendange Tardive d'Albert Boxler, Domaine Albert Boxler, était magnifique. Voilà, c'était une superbe entrée en matière. Effectivement, moi, évidemment, on sent que c'est doux, que c'est moelleux, que c'est un peu plus sucré qu'un vin sec et qui claque. Mais ça se tient encore, enfin, ça se tient très très bien. C'est hyper tendu quand même.
Oui, et puis la longueur en bouche, moi, je l'ai encore en bouche.
Ça tient, c'est ça.
Je sais pas si ça marche bien avec les épices.
Les arômes que ça évoque, mais c'est très évolué. D'abord, ça avait une couleur sublime, un peu.
C'était un peu pétrolé, il y avait un côté citron confit.
Propre au Riesling.
Oui, c'est vrai qu'on retrouvait le Riesling. Deuxième vin, cette fois, c'est celui que tu nous as apporté, Jérôme. Ouais, on fait travailler les invités. Je précise un truc qui m'a fait rire, hein, c'est que quand on a pris ce rendez-vous, j'ai dit on va faire une spéciale sucre. Dis-moi ce que tu veux que je prenne, ce que vous voulez que je prenne chez un caviste, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on aborde la question avec les invités. Trouvez-moi une référence, puis on va aller la chercher. Et la réaction tout de suite de Jérôme, c'est de dire attends, mais je peux pas venir avec mes vins, parce que moi, ce que je vais apporter, tu vas jamais le trouver dans le commerce. Qu'est-ce que tu nous as apporté, Jérôme?
J'ai apporté un quart de chaume 1989 du château de Suronde.
En effet.
Alors,
on est dans quelle région?
Alors, dans la région du Layon. Quart de chaume, c'est le grand cru de l'Anjou. C'est un très beau terroir qui n'est pas très grand, un très beau coteau comme ça qui regarde la Loire, si mes souvenirs sont... Non, le Layon, pardon. Et qui est, alors, qui est à la fois, qui sont à la fois des schistes, et il y a aussi une autre roche, je me demande si ce n'est pas des rhyolites ou des spilites. Ça se divise un peu en deux, le cru. Ça donne des grands liquoreux, de tout temps, ça a donné des grands liquoreux. Vous allez me donner votre avis sur le vin, alors moi je vous donne le mien tout de suite, je suis un peu déçu, hein, je ne trouve pas ça formidable. Alors, en fait, j'en avais quatre bouteilles, voilà, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, j'en avais quatre bouteilles, il y en avait une qui était très bonne, une qui était moyenne, une qui était naze. Celle-là, elle relève pas beaucoup la moyenne, je trouve. C'est la mauvaise période de la propriété, c'est la période de la Fourcade. Ils se sont pas distingués par des vins très brillants. Ça a été repris après par un monsieur qui était assez extraordinaire, qui s'appelle Francis Poirel, qui était un fou de liquoreux. Donc il a produit beaucoup de grands liquoreux. Et comme quelques vignerons de ce coin-là, de cette époque-là, c'est-à-dire en gros jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, bon, ben, ils ont tous mis la clé sous la porte. Parce qu'ils produisaient des grands liquoreux, mais encore une fois, ça ne se vend pas. Et ils produisaient des grands liquoreux avec des coûts de production absolument délirants, et ils les vendaient à des prix qui étaient certes élevés pour l'époque, mais très en deçà du coût réel de production. Donc il y a eu Jopiton, malheureusement, à cette époque-là, fait faillite, il a été racheté. René Mos s'en est sorti, mais il s'en est fallu de peu. Patrick Baudouin a cessé. À un moment, enfin, c'est disons, à réorienter sa production vers beaucoup plus de vins secs.
Ouais, c'est ça.
Ce qu'avait fait René Mos, d'ailleurs. Tournant que Joe a peut-être mis un peu plus de temps à prendre. Et Francis Poirel, bah, lui aussi, il a pris le tournant aussi un peu des vins secs parce qu'il a produit des grands liquoreux, mais encore une fois, ça se vendait très peu.
Donc là, est-ce qu'on est bien là sur un vin botrytisé ?
Alors, c'est une très bonne question. J'ai essayé de trouver des infos. Je n'ai pas trouvé. C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une bonne part de botrytis, mais ce n'est pas absolument certain non plus parce que le 89, il y avait probablement aussi quand même un peu de passerillage. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense que quand on goûte et quand on est sur le nez, ça ne fait pas trop botrytis hein, quand même. Ça fait plus passerillage que botrytis. C'était une année un peu dans la Loire, pour les souvenirs que j'en ai sur mes livres.
Hein, développer le botrytis.
Alors, botrytis.
Ouais, petite précision.
Botrytis, c'est un champignon qui va se poser sur la peau du raisin. Et ce champignon, il faut qu'il ait un terroir humide le matin, humide le soir, mais dans la journée, plein soleil. Donc on est bien dans la vallée du Layon, parce que l'humidité du Layon le matin donne cette petite brume qui va lui permettre de se développer. Et dans la journée, il fait beau, c'est plein soleil, il fait encore bon et sec. Donc dans la journée, pour boire, il va boire l'eau à l'intérieur de la baie de raisin.
Je
simplifie le champignon. Du coup, en prenant l'eau à l'intérieur de la baie de raisin, ça va concentrer les sucres et aussi ça va permettre de concentrer les arômes. Mais il va y avoir une saveur un petit peu particulière qui va être sur des notes un petit peu, il va y avoir le toffee, mais il va y avoir aussi une note un petit peu plus évoluée, un petit peu sous-bois, un peu confituré, un petit peu spécial. Et là, il est plus dans le côté doucereux de fruits un peu style abricot sec, et il a moins cette note un petit peu exotique qu'on a plus l'habitude sur le
botrytis cinerea. Donc on le retrouve près du Layon, on le retrouve près du Ciron aussi pour le Sauternes, oui. Qui est l'autre quand même grand lieu du...
Mais il faut ces fameuses rivières pour pouvoir apporter le frais.
Quant au passerillage, il y a deux types de passerillage. Donc passerillage, c'est de faire vieillir les vins soit sur pied, c'est-à-dire sur vigne, soit effectivement sur des lattes. En général, ce qui est le cas notamment de la Marone, par exemple, qui est un vin italien de Valpolicella, qui est plutôt vieilli sur latte. Mais bon, donc le passerillage, c'est vieilli sans champignons, on va dire.
Philippe va nous en parler du Valpolicella.
Donc là, plutôt passerillé, a priori.
Oui, plutôt passerillé. Honnêtement,
qu'est-ce que tu lui reproches ? C'est qu'il manque de tension, justement.
C'est aromatiquement un peu simple. C'est en bouche, c'est un peu rustique. Il y a une vraie dissociation entre la liqueur d'une part et l'acidité de l'autre, ce qui fait
ça manque d'équilibre.
Très largement penser à une bonne vieille chaptalisation maison. ce qui se pratiquait très couramment à l'époque, c'était ce contre quoi d'ailleurs.
Les femmes faisaient beaucoup de confitures à l'époque, à la période énormément. Des vendanges. Énormément de confitures.
Ce qui est un scandale quand on sait qu'en fait, qu'on peut produire, mais parce qu'il y a une chose, c'est que c'est l'occasion de parler d'une association qui malheureusement est en sommeil aujourd'hui et qui est une formidable association qui s'appelle Saprose. Et Saprose a été créée notamment par Patrick Baudouin. Et c'est une association qui regroupait, je ne sais pas s'il faut en parler définitivement à l'imparfait, j'espère pas, au passé, qui regroupe des vignerons qui refusent la chaptalisation et qui veulent faire des vins liquoreux naturellement doux, sans avoir recours à la chaptalisation. Parce qu'il faut savoir que la chaptalisation est autorisée. On a le droit de rajouter du sucre dans les cuves en fermentation pour produire des liquoreux, ce qui est un scandale absolu. On n'a qu'à pas faire de liquoreux s'il n'y a pas de sucre dans le raisin. Patrick avait créé cette association. Il y avait d'autres gens, je me rappelle plus quels étaient. Il y avait, je crois, des gens du Sauternay, il me semble qu'il devait y avoir. Il y avait un cru classé de Sauternes qui faisait partie de l'association. Bon, cette association n'a pas manifestement n'a pas beaucoup perduré, mais la base était quand même de refuser donc ces bidouillages œnologicaux à la con dans les caves et pour faire des vins qui étaient le résultat d'une année, d'une cueillette particulière avec une richesse en sucre telle qu'il était possible de produire un beau liquoreux sans aller bidouiller la cuve. C'est vraiment l'archétype. Alors, je vous dis, il y avait une bouteille qui goûtait très bien. Celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas formidable. Ça fait pas tellement honneur au grand cru qu'est censé être le quart de chaume. Bon, je suis un peu désolé. J'aurais espéré qu'elle fût meilleure, mais
ça fait partie du jeu aussi. Un vin vieux, il y a une part d'incertitude.
C'est quelque chose
comment dire. Intéressant.
Il lui manque un petit peu la vibrance, comme on dit, un petit peu l'émotion, mais c'est un truc qu'on goûte couramment et.
Ça manque, disons globalement, ça manque un peu d'harmonie. Je trouve que c'est un peu dissocié. Il y a le sucre. C'est plus une addition qu'une symphonie, quoi. Hein.
Vous allez voir le suivant. J'ai ramené le suivant et vous allez voir sur le passerillage. Je pense que ça va être son frère, mais version passerillée. Parce que comme beaucoup de choses que l'on goûte, moi j'ai des souvenirs de Mont-Louis parce que j'ai eu la chance de faire les vendanges à Mont-Louis où j'ai goûté des vins mais extraordinaires, vraiment sublimes et magnifiques. Mais c'est des producteurs qui avaient un hectare et demi, qui avaient quelques bouteilles. Et si tu vas pas là-bas, que tu te balades pas et que tu toques pas à la porte du vigneron, c'est un truc que tu trouves nulle part. C'est un truc que tu trouves nulle part. Donc dès que tu commences à avoir une production avec une quantité un petit peu importante et un réseau, c'est un petit peu le souci des sucres, c'est que pour pouvoir avoir une production un peu constante, surtout dans ces années-là, bah, on avait tendance à rajouter du sucre dans la cuve, quoi.
Le problème, c'est qu'effectivement pour le modèle économique, c'est que le sucre ça se vend pas, et puis quand on botrytise, etc., on a les rendements plus faibles. Enfin, théoriquement, je sais pas quel est le rendement à l'hectare sur
dès qu'il pleut,
il y a pas de rendement et ça se vend pas. Donc c'est sûr que faire que ça, c'est compliqué.
Dès qu'il pleut, le champignon, il a plus besoin de boire à l'intérieur de la baie de raisin, donc ça devient un champignon normal, c'est ce qu'on appelle la pourriture grise, et donc ton raisin, il est pourri, point, barre, et tu coupes et tu laisses à terre.
Et d'autre part, forcément, enfin, puisque le botrytis boit l'eau, bah, quand tu presses le grain, bah, il n'y a presque pas de jus, quoi. Je voulais juste préciser que Mont-Louis, c'est une appellation de la vallée de la Loire aussi, et qu'utilise du chenin aussi, et que je trouve ce qui est bien dans ce quart de chaume, parce qu'on va quand même lui trouver des qualités, c'est que...
Merci Bertrand.
C'est que, au moins, on sent aussi l'acidité du chenin. C'est-à-dire que... c'est ça que moi, j'aime dans les liquoreux, enfin dans les moelleux liquoreux de Loire, c'est que il y a ce chenin qui naturellement acide, va bien équilibrer le sucre, et les vins de Loire peuvent être hyper sucrés. Ça donne toujours cette impression un peu de fraîcheur, enfin quand c'est bien fait, bien sûr. Mais c'est toujours des vins qui sont faciles à recommander sur, s'il faut impérativement boire un vin sucré en apéro ou en dessert, ou voilà, bah pourquoi pas un vin sucré de Loire, parce que bah il y aura moins de sensations peut-être de lourdeur ou de rondeur ou de d'opulence de richesse que un vin du Bordelais ou du Sud-Ouest.
Non, en fait, il est très bon, hein, quand même, faut pas non plus exagérer.
Oui.
Mais la déception, en fait, c'est par rapport au millésime. C'est comment le vin, il a vieilli.
Parce que 89 parce que est un millésime
quand
particulier.
On dit que les vins moelleux mangent leur sucre avec le temps. et développe d'autres arômes, de la complexité. Et en fait, là, bah, on n'a pas la sensation de ce fameux côté mange ses sucres. Et nous, le sucre est toujours là. Et si moi, je le goûte à l'aveugle, je ne dirais pas que c'est un mauvais vin. Je trouverais bon.
Oh non,
mais je ne dirais pas que c'est un 89. Moi je serais dans les années 2010, facile. Quoi. Après, je ne suis pas une grande dégustatrice à l'aveugle, mais
Il n'a pas évolué sur des arômes tertiaires.
On n'a pas les arômes.
Assez peu.
On n'a pas les arômes tertiaires qu'on risque d'avoir tout à l'heure. Je te regarde.
Tu veux passer au vin suivant, c'est ça?
Non. C'est pas que je suis pressée de goûter la suite, mais c'est que tout à l'heure, on va avoir quelque chose avec des arômes évolués.
Alors, le temps de le mettre dans les verres. Parlons un petit peu des accords. Alors, en fait, on a tenté des choses. Ce soir, on a un certain nombre de choses. Patrice le disait tout à l'heure, il a apporté des nems avec une petite sauce épicée, un peu pimentée même. On a des fromages. Un classique, c'est de dire que le sucre, ça répond bien avec des choses qui sont relativement salées. Voilà, le sucre versus le sel. Donc là, c'est du parmesan, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos préférences? Je complète le
moi,
plateau.
Je l'ai bien
il y a également
aimé
des...
sur la petite terrine au piment d'Espelette.
Voilà, il y a la petite terrine au piment d'Espelette au piquillos de Laurent, qu'il sert au wine therapy. Il y a également des petites pâtes persillées, fourme d'Ambert, roquefort, papillon. Qu'est-ce que voilà
bon, c'est un accord. Un moelleux avec une pâte persillée, c'est quand même un des accords les plus extraordinaires qui soient. Après, il y a certains blasés qui trouvent ça reste quand même très très bon. ça reste une base d'un accord admirablement réussi, pourvu évidemment qu'on aime l'un et l'autre.
Après, la fourme était particulièrement bonne, si je me permets.
Oui, la jolie découverte, c'est la fourme qui fonctionne surtout, mais comme l'a dit Jérôme, c'est un peu attendu. Ce qui est moins attendu, c'est cette petite terrine d'aura de crevette citron vert gingembre,
oui.
Et qui, pour l'instant, pour moi, est l'un des meilleurs accords avec le premier comme avec le deuxième vin. Là, c'est vraiment très... Enfin, pour moi, c'est inattendu.
La maison de production, parce que quand tu m'as montré
c'est
ça...
C'est l'atelier du poissonnier. C'est vraiment très, très bien, avec des étiquettes bourrées de jolis mots.
Dorade, crevette, citron vert, gingembre. Il fallait quand même aller chercher. Et c'est vrai que là, on a à la fois de l'acide, le côté mer du poisson et de la crevette. Et ça répond très, très bien au sucre.
Oui. Comme on disait, le sucre, c'est un exhausteur de goût. Et puis, ça rentre très, très bien en résonance sur tout ce qui est acide, sucré, voire amertume. Donc, encore une fois, quand c'est bien équilibré et quand on joue dans la même catégorie, on parle souvent de l'accord Sauterne-Roquefort ou Liquoreux-Roquefort parce que ça joue dans la catégorie et ça s'oppose. Et comme le sucre répond en résonance, et les deux se renvoient la balle et ça monte dans les tours, quoi. Et donc, c'est vrai que le sucre, en plus, ça rallonge un peu la temporalité du vin. C'est-à-dire que ça, au-delà de faire de l'exhausteur, en général, ça donne une allonge supplémentaire dans l'accord.
On a déjà maintes fois ici défendu l'accord fromage avec du vin blanc plutôt que le traditionnel vin rouge, qui est devenu un lieu commun de dire le fromage avec le vin blanc. Mais alors là, on ajoute qu'avec un blanc un peu moelleux, un peu sucré, c'est merveilleux, en tout cas avec certains fromages. Peut-être pas avec un comté, par exemple. Mais
non, je pense que ça fonctionne moins bien avec le comté. Encore une fois, les pâtes persillées fonctionnent très, très bien. J'avais fait une fois un test qui était un peu par hasard. C'était aussi parce qu'il n'y avait plus grand-chose d'autre. Il y avait un reste de vieux sauternes. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir goûter pas mal de vins qui étaient plutôt vieux quand j'ai commencé à m'intéresser aux vins. J'avais beaucoup de chance que mon grand-père avait acheté plein de vins. Et puis j'ai un oncle qui était vraiment dans le monde du vin aussi, qui grenouillait avec des mecs comme Michel Bétane, Michel Dova, Benoît France. Si vous connaissez Benoît France, c'est un type qui a une maison d'édition de cartes, de cartes, de cartographie de vignobles absolument admirable. Et bref, ils étaient tous au même moment, au tout début de l'Académie du vin de Stephen Spurrier, qui est un grand dégustateur anglais qui avait créé une école du vin qui était à l'époque Cité Berryer dans le 8e. Bref, il y avait comme ça donc pas mal de vieux vins. Et il y avait ce sauterne et il y avait un morceau de fromage d'Auvergne qui s'appelle le Gaperon, qui est un fromage
qui est aromatisé en fait. C'est un fromage au lait cru, hein. c'est les rebuts du Saint-Nectaire qu'on utilise, c'est les restes du Saint-Nectaire qu'on utilise et on en fait un fromage, le petit lait. On en fait un fromage qui s'appelle le Gapron, donc c'est ail et poivre. C'est une sorte de... C'est une sorte de... Comment dire de...
Boulette d'avenne.
Oui, un peu. Alors, en moins puissant que la boulette d'avenne, c'est une sorte de boursin,
de qualité.
AOC, quoi. Voilà. Cela dit, quand vous regardez le boursin, si vous regardez la liste des ingrédients, c'est hyper propre. Hein. Il y a vraiment rien de mauvais dans du boursin. Et donc, l'accord était dingue. Ah. L'accord était extraordinaire.
Gapron, Sauternes.
Et je me rappelais de ça. Et donc, plus tard, j'ai refait des accords, notamment avec l'ail. Et l'ail, si, quand on en met beaucoup, moi, j'aime beaucoup l'ail. Quand on en met beaucoup, ça finit par être presque un peu piquant. C'est d'ailleurs, dans la rouille, ce qui est piquant, c'est l'ail. Il n'y a pas de piment dans la rouille. La rouille, c'est de la fécule de pomme de terre qui est montée. C'est de l'ail frais, mais qui est fort. On en met énormément et donc, ça a ce côté piquant. Eh bien, essayez, par exemple, une soupe de poisson avec un peu de rouille, parce que sinon, c'est la rouille qui va faire le lien, avec un moelleux.
Voilà,
et l'ail et le moelleux, c'est formidable.
Le temps s'y prêterait, hein, avec ce froid de début décembre. On aurait pu faire une bonne soupe de poisson. On n'a pas prévu ça, mais ça se note. Quel est ce vin, ce troisième vin, Florence, que tu nous proposes?
En fait...
On monte graduellement en taux de
sucre. Sur les notes sucrées. Parce que j'avais envie de vous rapporter un vin, mais que bien souvent, sur les bouteilles de moelleux, c'est des 37,5 ou c'est des 50. Je me suis dit qu'on allait manquer un peu. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux en ramener deux. Du coup, comme je me suis dit qu'il valait mieux en ramener deux, j'ai décidé de rapporter deux choses totalement à l'opposé. Donc, un truc bien classique et un truc très, très rare et très, très original. Donc là, c'est le bien classique. C'est le bien classique, c'est un Pachering du Vic-Bil. Bon, après, c'est une appellation qui n'est pas des plus connues, mais je trouve ça dommage parce que je trouve que ça demande à être connu. Parce que
marketingement, ils n'ont pas un nom de ouf.
Non.
Bah, ça fait local.
Pachering du Vic-Bil. Comment t'écris ça, déjà?
Au contraire. C'est le renouveau des appellations.
Donc, c'est Château d'Heidy, c'est un grand classique. C'est la famille et la place. C'est une famille, ça fait trois générations qui sont installées là-bas.
Château d'Heidy, D-E-Y-D-I-E.
D-A-Y-D-I-E.
D-A-Y-D-I-E.
Et voilà. Donc, ça date depuis 1927. C'est un grand classique. On est sur un terroir argilo-graveleux et cépage petit Mincent et grand Mincent. Donc là, c'était pour aussi, puisque on était parti sur des vendanges tardives, on n'était pas parti sur faire quelque chose avec du botrytis, c'était pour pouvoir faire du passerillage. Donc c'est du passerillage. Quand je goûte, c'est une explosion de fruits, des fruits un petit peu exotiques. On retrouve l'ananas, le côté un petit peu Victoria. C'est souple, c'est fruité, c'est facile à boire. Et pour aller avec, j'ai rapporté une tarte aux pêches. Bon, c'est pas trop la saison, mais voilà, c'est un truc. C'est pour changer du Montbazillac qu'on trouve au supermarché, justement, histoire de dire on a envie d'un sucré, on a envie d'un truc facile à boire, qu'on pourrait goûter sur. Juste comme ça, pour le plaisir, tout seul, ou bah, parce qu'on a envie de se faire un truc un peu sucré avec le dessert, ça matche bien. Après, là, je viens de le goûter, on a un petit peu de foie gras sur la table, et il est trop sucré, et il est trop fruit hein, pour aller avec le foie gras. Je pense que c'est plus sympa, ce sera plus sympa sur la tarte.
Moi, j'ai bien aimé, moi, Florence, parce que je trouve que ça, tu vois, ça t'apporte le chutney de mangue sur le foie gras. Non, mais c'est vrai, c'est très explosif en bouche et assez mangue.
Après, j'aime beaucoup, hein, c'est un truc très sympa, mais voilà, c'était parce que j'avais envie de faire un truc un peu classique et un truc chouette et facile.
Mais
voilà.
On en prend plein les narines, hein. C'est-à-dire
ah
que
ouais,
dès qu'on met le nez dedans...
C'est à fond sur les fruits exotiques. Ah,
le petit Mancin comme ça, c'est toujours très aromatique.
Et là, pardon, mais la longueur en bouche est très intéressante et très convaincante.
Ah
donc
oui,
là,
oui,
on
c'est...
a un vin qui est libre.
Ouais, ouais, il y a de la longueur, il y a de la matière, ça se tient bien, c'est sympa. C'est
il
sympa
est que
à
petit
voir.
Mincin ou il y a du gros Mincin aussi?
Petit Mincin et gros Mincin. Je sais plus
alors,
le
comment on prononce alors?
Moi je dis Mincin.
Hein?
Bon, bah, M-A-N-S-E-N-G, Mincin.
Mincin.
Ah, mais c'est ça, Mincin. Oui. D'accord.
Voilà. Bah, voilà. Après,
oui, mais beaucoup de gens, comme toi, disent Mincin.
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 D'accord.
Mais, et c'est un rapport qualité-prix imbattable en plus.
Ouais,
hein.
Alors là, c'est super hein. Chouette parce que on est prix caviste. La bouteille, alors c'est une bouteille de 50, hein, c'est pas une bouteille de 75. On est à 20-25 euros prix caviste normalement à peu près. Mmh. Donc c'est, ça reste un sucré à un tarif raisonnable. Mmh, oui. C'est clair que il y a des Montbazillac qu'on trouve au supermarché à 15 balles. Je préfère largement faire ça, mettre un petit peu plus d'euros dedans et d'avoir un truc qui explose le fruit et qui a de la matière.
Très fruité, beaucoup de fruits exotiques. Petit rappel. Dans les très grands liquoreux, notamment le Clos Joliette, on parlait de petit manzing. Alors là, bon, c'est pour les grosses bourses.
Hein. Jurançon, hein.
Oui. Jurançon, oui, mais on est sur un hectare et demi de petit manzing sur des vignes qui ont 90 ans, donc pour le Clos Joliette. Il en fait, quelques. Donc le petit manzing, juste pour dire que le petit manzing est un très grand cépage de liquoreux sur des notes très, très, très. Un peu moins acides, un peu moins amères que ce qu'on a pu voir en chenin ou en riesling, mais voilà, sur des très grands liquoreux du sud-ouest.
C'est comme le fameux jardin de Babylone de chez Dagno. J'en ai touché parce que j'ai des bouteilles à la cave, mais comment j'en ai jamais ouvert. Donc je sais pas.
Tu l'as jamais goûté ?
Non, j'ai jamais goûté.
C'est un des plus grands liquoreux que j'ai goûté.
J'ai jamais réussi à en vendre, sûrement le prix là, parce que là le prix est assez rédhibitoire. Oui. Donc j'en ai des bouteilles en cave. J'ai une verticale, je dois avoir 6 ou 8 millésimes et j'ai jamais réussi.
C'est un vin absolument hors norme.
Rappelle ce vin.
Jardin de Babylone, c'est
Dagno.
Oui, une propriété qui a été achetée par. Didier Dagno, j'avais en tête le nom de son fils, par Didier Dagno, avec quelqu'un d'autre, hein, parce qu'il y a quelqu'un sur place, je ne me rappelle pas le nom de l'autre personne, le pauvre malheureux, personne ne retient jamais son nom.
Tout le monde retient Didier.
Avec une particularité, c'est qu'il n'utilise pas seulement du petit manzing, mais il y a aussi du. Et là, le nom m'échappe, il y a deux autres cépages. Il me semble qu'il y a du courbu.
Voilà,
courbu. Du courbu et de la Ruffiac.
Non, la Ruffiac, ça c'est pour les pâcherins. Il n'y a pas d'Arufiac en Jurançon.
Camaralais.
Voilà, Camaralais.
Concours de cépages, là.
J'ai eu l'occasion si donc, d'en goûter pas, plusieurs fois. C'est hein. Vraiment un vin extraordinaire. Et il y a une acidité qui est totalement hors norme dans ce vin. Et j'avais eu l'occasion d'aller goûter chez Louis-Benjamin Dagno, donc le fils de Didier Dagno. Et j'avais demandé quand même comment il arrivait à une acidité, à un niveau d'acidité pareil. Et il m'avait dit que il fractionnait son pressurage et qu'il ne prenait que les jus les plus beaux et les plus acides.
Ok.
Et qu'il arrivait à ce résultat-là aussi grâce à ça. Donc c'est pas seulement la vigne, les cépages, le terroir, c'est aussi une façon de presser qui permet d'obtenir ce résultat. Et il faut bien reconnaître que c'est vraiment un grand, grand, grand liquoreux. Très grand liquoreux.
Est-ce que ça se rapproche ou pas? Parce que moi, j'en ai jamais bu. On aurait dû en avoir un si on avait eu Laurent. Est-ce que ça se rapproche des vins de glace ou pas sur l'extrême sucrosité et l'extrême acidité?
Il n'y a pas d'extrême sucrosité.
De forte
présence. Elle n'est pas aussi élevée que sur un vin de glace.
D'accord.
Il y a une acidité totalement délirante. Alors, ça évoque effectivement, ça évoque, si ce n'est les vins de glace, en tout cas les équilibres de moelleux allemands. Qui sont très marqués par l'acidité et en même temps avec des sucres sur des Trockenbrennhauslese, donc des TBA, qui peuvent être assez élevés à plus de 100 grammes. Mais c'est vraiment un vin sui generis. Il est seul au monde, ce vin. C'est vraiment un vin assez extraordinaire. Alors, effectivement, il est cher, c'est vrai, mais ce n'est pas le prix d'un IKEM non plus.
Donc, et Claude Joliette, goûtez ou pas?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance, oui, j'en ai goûté pas mal les années 70. Oui.
D'accord. On est dans la même typologie que le Babylone ou pas du tout?
Non, Joliette est dans un registre évidemment d'abord beaucoup plus évolué, des vins qui sont très patinés par le temps. Non, c'est très différent.
Non, mais Ikem, il a le nom pour lui, parce qu'on est à peu près sur la même gamme de prix.
Oh non.
Babylone?
Mais c'est combien Babylone?
Ah non, à Babylone aujourd'hui, chez un caviste, ça vaut 90 euros, 100 euros.
Carte resto, moi je l'ai à 150 à peu près dans ces eaux-là.
Si vous voulez qu'on parle du prix du vin au restaurant,
on aura l'occasion de...
Ouais, je pense qu'on doit être aux alentours de 90-100 euros.
Non, s'il est à 150 sur carte, il n'est pas très cher.
Non, on n'est pas très cher, nous, sur la carte des
non,
vins.
Non, pour le coup, non.
Il faut aller, te refaire, c'est pas cher. Franchement,
arrêtez avec les pubs. On est à 1000 euros pour les DRC. Hein,
ah ouais, c'est pas cher.
Alors, j'interromps ce cotage en bourse pour remercier Florence, parce que l'accord entre le pacherinque du Vic-Bil et la tarte aux pêches, c'est ça ?
Ouais, aux pêches.
C'est vraiment formidable. Et là, on reconnaît la sommelière. Merci beaucoup.
Non, et je disais, en fait, le truc, c'est que Ikem, bon, bah, c'est plus cher, mais c'est tellement réputé, c'est tellement connu que ça part bien. Les jardins de Babylone, personne ne connaît. Et du coup, bah, c'est pour ça
c'est
que je ne vends jamais.
C'est étonnant qu'à ce prix-là, quand même, il n'y ait pas des amateurs qui craquent.
Bah non, et c'est pareil. Moi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a des Krareurs qui sont des vins autrichiens, qui sont des vins doux, qui sont magnifiques. On est même un petit chouïa moins cher que les jardins de Babylone. Et c'est pareil, bah, j'en vends pas. Alors que
est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance aussi de ces vins? C'est pas forcément des vins dont on parle beaucoup. Enfin, Ikem capte toute l'attention et puis derrière Ikem.
Ouais, mais même Ikem. Alors, moi, je connais pas hein, les vins autrichiens, etc. Mais même Ikem, qui est réputé dans le monde entier, qui est selon pas mal de monde un des meilleurs liquoreux du monde. Ikem se vend 250-300 balles. Donc quand tu compares ça au top 5 des meilleurs vins rouges ou top 5 des meilleurs vins blancs secs, en fait c'est divisé par 10 quoi. Donc ça montre bien que le sucre n'a pas la cote et que c'est compliqué de vendre cher du vin sucré. Donc du coup ce qui fait que tu peux te faire plaisir, un plaisir de buveur d'étiquette avec c'est très bon, hein, Ikem. Attention, j'ai eu la chance d'en goûter aussi. Il n'y a pas à dire, c'est très très bon. Mais tu peux te faire un kiff, avoir 8-9 potes aussi amateurs que toi et mettre 30 balles sur la table et goûter un vin absolument sublime, quoi. Donc, un truc que tu ne pourrais pas te permettre en vin rouge ou en vin blanc sec. Donc, ça, encore une fois, le prix, on parle de prix là, mais le prix, en fait, dit aussi tendance et le fait que les vins sucrés ne sont pas du tout à la mode.
Le prix est toujours le résultat d'une offre et d'une demande, quoi qu'il arrive. Ça n'a rien à voir, ça a quelque chose à voir, mais c'est décorrélé de la qualité des vins.
Oui, tout à fait.
On est bien conscient de ça. Je voudrais juste qu'on trie un petit peu en termes de méthode, qu'on sache où on en est, parce qu'on a commencé avec un vendange tardif. Ensuite, on a parlé d'un vin supposément passerillé, peut-être même un peu chaptalisé. C'est ce que tu
sélection
disais.
Sélection Grenoble.
Oui, enfin, vendange tardif, c'est des Grenoble, on est.
Non, mais en fait,
attention, c'est pas la même chose.
Je crois que il faut initialement, vendange tardif, sélection de Grenoble. Vendange tardif, c'était le passerillage et la sélection de Grenoble, comme son nom l'indique, c'était le botrytis.
C'était le botrytis.
La vendange tardive n'incarne pas du tout le botrytis en Alsace. C'est la sélection de Grenoble qui incarne le botrytis. La vendange tardive, d'ailleurs. La richesse en sucre demandée pour avoir la mention vendange tardive, elle est moindre en VT qu'en sélection de Grenoble. On l'a dit qu'en sélection de Grenoble. Et c'est la sélection de Grenoble qui, comme son nom l'indique, était le résultat de raisins atteints de pourriture noble. La vendange tardive, c'est une mention alsacienne. Au fond, ça n'est ni plus ni moins qu'un vin moelleux, passerillé. Le pacherinque qu'on a ici devant nous est une vendange tardive. Le n'importe quel vin moelleux est en réalité une vendange tardive. Et parfois, les vendanges tardives sont récoltées à peine plus tardivement que les vins secs parce que...
On parle de surmaturité, en fait. On parle de vins...
Voilà, ce sont des vins de surmaturité de passerillage.
Sans intervention de la
sans la pourriture noble. Alors, la pourriture noble, donc, ça, vous l'avez très bien expliqué. Hein, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. C'est ce champignon. Et puis, ce sont les deux vins qui sont dans le langage administratif des vins naturellement doux, par opposition aux vins doux naturels, qui sont eux des vins mutés. Donc, alors, les trois quarts des gens vous disent c'est des vins cuits. On dit, bah, écoutez, non, les vins cuits, vous allez au supermarché, achetez-vous une bouteille de martini, ça c'est du vin cuit. Mais là, c'est des vins doux naturels, donc des vins mutés. Et ça constitue l'autre grande famille de vins vin liquoreux. Voilà.
On va y arriver. Moi, je voulais juste faire ce petit
retour. Et puis, il y a donc les vins de glace aussi.
Ah oui, c'est oui toi, tu as parlé de vins de glace.
Alors, les vins de glace, c'est comme la tarte tatin. C'était pas prévu au départ. Mais c'est que, voilà, c'est des Autrichiens, les Allemands,
ça a gelé. Et puis finalement, ils ont goûté ça quand ça a dégelé. Ils ont trouvé ça super bon. Et donc, en fait, voilà, c'est les raisins qui gèlent naturellement sur les pieds. Alors, il faut des températures un peu précises. Il faut que ça reste entre 7 degrés, puisqu'à 7 degrés, c'est là où le pulpe de raisin gèle. Il ne faut pas aller en dessous de moins 12, parce qu'en dessous de moins 12, on va perturber les caractéristiques organoleptiques des raisins. Donc, c'est un vin qui est cueilli entre moins 7 et moins 12 degrés, qui ensuite, je dirais, va perdre son eau quand il va revenir à un état...
Non, il est pressé, il est pressé à moins 7. C'est le principe même de la cryo-extraction. Il est pressé à moins 7, et à moins 7, l'eau est gelée, le sucre ne l'est pas. Donc, il coule un espèce de sirop. Là, les rendements sont encore inférieurs à ceux des vins liquoreux. Et on en produit là où il gèle vraiment. C'est-à-dire qu'en Alsace, il ne gèle pas tant que ça. En Allemagne, en Autriche, puis surtout beaucoup au Canada.
Ontario. Ouais. Et donc, la caractéristique du vin de glace, c'est qu'il est à la fois très sucré et très acide, puisque aussi l'acidité se concentre avec la perte de l'eau.
Ouais.
Et donc, apparemment, parce que moi, je n'en ai jamais goûté... On est sur des taux de concentration spéciaux.
Ouais, c'est très rare. Il y a des trucs très bons. Ouais. Alors, ceux du Canada sont peut-être pour le coup. D'abord, ils utilisent un cépage un peu cueilli qui s'appelle le Vidal. Pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Ils utilisent du Cabernet Sauvignon. Enfin, moi, j'avais goûté ceux d'Inniskilling, notamment, qui était le plus connu à l'époque. C'est en Allemagne qu'on goûte des Eiswein extraordinaires.
J'ai plus des souvenirs de d'Eiswein allemand que de canadien. J'ai dû goûter un de Vidal qui ne m'a pas laissé un souvenir.
Non, moi non plus.
Il y a du Riesling, donc c'est Riesling sinon.
Riesling, Cabernet Sauvignon et Vidal, chez Inniskilling notamment.
Il y a du Grüner Veltliner aussi, qui est aussi un des cépages du.
En Autriche.
Exactement.
Ouais.
En Autriche. Et il y a aussi du Gewürz.
Et Weichriesling aussi.
Ah oui, exact, en Autriche, le Weichriesling.
Weichriesling en Autriche.
Alors là, c'est la Normande qui parle, mais qu'est-ce qu'on doit penser du cidre de glace?
Même principe, on en trouve beaucoup, encore une fois, au Canada. C'est très rare en Normandie.
Ouais, est-ce que c'est correctement fabriqué chez nous?
Tu fais un peu ta Dominique Hutin, qui régulièrement, dans sa chronique 20, parle de cidre. Mais moi, ça me plaît, ça m'amuse.
Oui, mais j'adore Dominique, donc tu vois, c'est un hommage.
Moi j'ai goûté des choses qui étaient intéressantes. Après, le reproche que j'avais pu faire à certains vins de glace, c'est que je trouve que
citron de glace ou vin de glace.
Alors cidre, mais en fait même chose, cidre et vin de glace. Partage un reproche en ce qui me concerne, c'est que j'avais des fins de bouche qui étaient un peu fuyantes, que je trouvais un peu décevantes.
D'accord.
Voilà, c'est un souvenir que j'ai notamment, et particulièrement vrai sur les cidres de glace.
Alors, est-ce que c'est le moment? J'ai un petit son de Philippe qui nous envoyait, on va nous faire une petite pause, qui nous envoyait parce qu'il tenait absolument à être là. Lui, c'est pas les grèves qui l'ont retenu, c'est sa vigne. Il faisait de la taille encore aujourd'hui pour parler d'un Amarone della Valpolicella, qui est aussi un vin liquoreux que lui, il nous a même envoyé la photo de la tarte aux poires avec laquelle il l'accorde. Voilà, il est avec nous par la pensée et même par le son. On va juste écouter ce qu'il nous raconte.
C'est la fin de la première partie de cet épisode de Noël en compagnie de Jérôme Gagnez avec qui nous explorons le monde merveilleux des vins sucrés. On retrouvera la suite dans le prochain épisode. Philippe Viette nous parlera donc de son Amarone et de la Valpolicella. Bertrand nous fera découvrir un très vieux millésime de Sauternes, ou disons un Sauternes dans la force de l'âge, et bien d'autres surprises encore à venir. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire. Nous racontez pourquoi pas vos expériences, vos émotions autour de ces vins tout en douceur. Faites-le sur les différents réseaux sociaux ou sur le site laterreaboire.com. Portez-vous bien, buvez de bons et de beaux vins et surtout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Thank you.
I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand, darling.